Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes dimanche soir, c'est l'heure du Grand Fauve. Ce soir, une illustre inconnue. Let's go Marco.
Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Un court de tennis en plein cœur de la nature. C'est tout l'état d'esprit du Simone Mathieu, le dernier né à Roland-Garros. Tout autour du cours, on trouve quatre serres qui regorgent de plantes et dans les gradins, on a installé 5000 places. Un écran moderne au service de la notoriété du tournoi parisien.
Durant les deux prochaines semaines, vous allez entendre régulièrement son nom à l'antenne dans les résultats de Roland-Garros, puisque désormais, un cours porte son nom, le Simone Mathieu. Simone avec deux N, sans doute une étourderie d'un employé de l'état civil, championne de tennis des années 30, avec deux victoires à Roland-Garros, avant de devenir responsable du corps féminin des Françaises volontaires au sein de la France libre. Simone Mathieu, héroïne de la résistance, et pourtant inconnue au bataillon de la mémoire collective étrange. Au programme ce soir, donc, deux invités au micro d'Inter pour nous conter la vie et le destin hors pair de Simone Mathieu. Tout d'abord, il est historien de la Seconde Guerre mondiale et administrateur des rencontres de l'histoire de Blois. Éric Alary, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous. À vos côtés, un journaliste de la rédaction du journal La Croix et auteur d'un très bon portrait de Simone Mathieu. Jean-François Fournel, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous aussi. Et puis, juste avant le journal de 19h, la victoire en chantant de Pierre-Étienne Minanzio. Ce soir, Neil Hannon, leader du groupe Divine Comedy et grand passionné de cricket. Vous êtes bien sur France Inter dans l'émission qui vous raconte la grande histoire du sport. Au menu ce soir, Simone Mathieu de Roland-Garros à la France Libre.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Alors, chaque semaine, dorénavant, vous le savez, nous débutons cette émission par la minute musculaire de Robert Reynaud, sémillant professeur de gymnastique qui sévissait sur les ondes de l'ORTF dans les 50s. Le sport à la maison pour les auditeurs et les auditrices. Ce soir, le professeur Robert Reynaud vous propose de travailler votre correctif d'attitude, j'adore ça, votre correctif d'attitude, comprenez la souplesse de votre éventail costal.
Voici votre correctif d'attitude qui n'est pas à négliger lui non plus car il vous permet de redresser le dos et la nuque, de vous tenir mieux et souvent aussi de respirer mieux car les deux sont liés, voyez-vous. La respiration et l'attitude, forcément, lorsque la colonne vertébrale se redresse au niveau de la région dorsale, vous avez une projection du thorax en avant et de meilleurs échanges respiratoires, enfin une plus grande capacité. Car il faut aussi travailler la souplesse de cet éventail costal, bien sûr. Donc il n'y a pas seulement le redressement de la colonne vertébrale, mais aussi l'assouplissement des côtes qui intervient. Alors quoi qu'il en soit, vous vous placez en fente avant, vous vous disposez dans votre appartement en fente avant, le pied droit devant le gauche à 50 ou 60 cm à peu près de distance, c'est bien. Le tronc oblique en avant, le buste bien oblique en avant. Et dans cette position, le dos plat, le menton serré sur le cou, la tête droite, vous levez les bras par les côtés, vous les amenez jusque dans le prolongement du buste en forçant le plus loin possible en arrière. Et ce faisant, non seulement vous redressez la colonne vertébrale, mais encore vous fixez les omoplates sur le thorax. Important également, vous redescendez par le même chemin, par les côtés, vous ramenez les bras en bas, le long du corps. Et nous recommençons, levez les bras par les côtés et vous redescendez, c'est bien. Levez les bras par les côtés. Et vous redescendez, oui. Levez les bras par les côtés et vous redescendez, c'est bien. Et maintenant, je crois que nous allons pouvoir vous quitter, auditeurs amis, en vous souhaitant une excellente journée à tous avec le réveil musculaire.
C'était le monde d'avant. Après les fabuleux exercices du professeur Robert Reynaud, c'est l'heure d'une illustre inconnue. Voici l'histoire du dimanche soir. Le 11 juin 1938, sur le cours central de Roland-Garros, dans sa loge installée au bord du terrain de tennis, sous un chapeau de feutre à large bord, avec une fourrure en lynx de Sibérie posée sur les épaules et planquée derrière une paire de lunettes noires, Marlène Dietrich assiste à la finale d'âme des internationaux de France. L'ange bleu voit s'affronter deux joueuses françaises, Nelly Landry face à Simone Mathieu qui gagne ce match 6-0-6-3. Première victoire enfin à Roland-Garros pour Simone Mathieu après 5 finales perdues. Marlène Dietrich ne pouvait se douter alors qu'elle était en présence d'une femme courage qui allait entrer dans l'histoire, mais dont le nom allait tout doucement disparaître des mémoires.
Simone était exactement ce qu'on appelle un caractère. C'est-à-dire elle n'avait pas un service fracassant ou une montée à la volée comme certaines joueuses aujourd'hui. Mais elle ne manquait pas une balle, elle avait une très belle technique, notamment un coup droit magnifique mais un caractère et une intelligence de jeu formidable.
L'année où meurt Suzanne Lenglen, Simone Mathieu, alors âgée de 30 ans, gagne enfin les Internationaux de France après avoir été 6 fois finaliste. Elle était une merveilleuse ambassadrice du sport français. Elle sera au cours de sa carrière championne de Belgique, de Suisse, de Grèce, d'Égypte et des Pays-Bas.
Je crois qu'en dehors du sport, Simone Mathieu a eu un comportement tout à fait admirable en tant que femme pendant la guerre.
Oui, absolument. Elle s'est engagée dans l'armée. Elle était capitaine des forces françaises libres. Et elle a eu là aussi beaucoup de courage.
Jean-François Fournel, depuis l'an passé, un nouveau cours à Roland-Garros porte le nom donc de Simone Mathieu. Vous avez signé à cette occasion un très bon papier dans La Croix consacré à Simone Mathieu. Première question, Jean-François, est-ce que vous connaissiez son nom avant l'an passé?
Absolument pas.
Ah.
Absolument pas. Si, je connaissais le nom du trophée Simone Mathieu, qui effectivement récompense, je crois, le double mixte.
Absolument, à Roland-Garros.
À Roland-Garros. Mmh. Mais j'avoue que ma curiosité était prise en défaut ce jour-là.
Comme nous tous, comme nous tous.
Était prise en défaut ce jour-là. Mmh. Tout le monde connaît la coupe Suzanne Lenglen, mais la coupe Simone Mathieu, et puis le double mixte n'est pas forcément la discipline la plus populaire à Roland-Garros. Non, je ne connaissais pas. Et quand j'ai signé ce papier-là, j'ai fait un reportage donc le jour de l'inauguration, et je vous assure qu'il y avait un certain nombre de gens qui se sont gargarisés du parcours magnifique de à commencer par le président Sarkozy, mmh, et la maire de Paris, Anne Hidalgo. Je prends le pari que eux non plus, quelques jours avant, leur conseiller avait dû savoir et leur glisser quelques fiches, mais je crois bien que...
Personne ne savait qui était Simone Mathieu. Éric Alary, je vous pose la même question. Vous êtes, vous, historien, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. On va y revenir. Simone Mathieu a un rôle non négligeable à Londres dès 1940. Est-ce que vous, l'historien de cette période, connaissiez ce nom de Simone Mathieu?
J'avais vu apparaître le nom une fois, mais sur une ligne. Mm-hmm. Et toutes les histoires de la France libre sont généralement des histoires politiques. On s'intéresse peu à la place des femmes dans la résistance. On connaît tous l'intégration de Joséphine Baker dans le corps des volontaires françaises. On connaît bien sûr Lucie Aubrac, mais qui elle appartenait à la résistance intérieure, qui a fait l'objet de bandes dessinées, y compris aux États-Unis, Lucie, To the Rescue, etc. Mais rien sur Simone Mathieu. Et Philippe, vous me permettez de la redécouvrir et même de la découvrir.
Oui, c'est un personnage incroyable dont on va parler ce soir. Alors en général, Jean-François, quand on traite ici de destins sportifs, on parle de petites gens. Hein, c'est des destins qui sont assez transcendés. On parle d'un milieu social assez défavorisé. Et puis, c'est une ascension sociale, le sport. Avec Simone Mathieu, c'est un peu différent. Elle naît en 1908 à Neuilly-sur-Seine. Dans quel milieu grandit-elle, Jean-François?
Alors, c'est une fille de la haute bourgeoisie parisienne qui a épousé celui qui allait devenir le futur patron du grand journal de tennis de l'époque, qui s'appelait Smash, qui était lui-même un fils de la bourgeoisie. Je crois qu'il était président du Stade français. Ou,
en tout cas, René Mathieu. Hein.
Absolument, mmh. René Mathieu. Mmh. René Mathieu avec un N. Elle en avait deux. On a effectivement, je vous confirme cette information, j'ai demandé à son petit-fils si on savait pourquoi il y avait deux N.
Donc il y a deux N à Simone.
À Simone.
Personne ne savait pourquoi.
Mmh. Personne ne sait pourquoi. Mmh. Ce qui est quand même assez
étrange.
Assez étrange. Mmh. Hein. Non, c'est une jeune femme de la bourgeoisie qui utilise visiblement le tennis pour échapper un petit peu à la pesanteur de la bourgeoisie parisienne, de l'Ouest parisien de l'époque. Qui on dirait qu'elle jette un peu sa gourme dans le tennis. Elle utilise le tennis pour mener une vie de femme indépendante. On fait d'elle une héroïne à juste titre, mais c'est d'abord aussi une femme qui, au retour d'un tournoi de tennis en 1939, s'arrange pour pas rentrer chez elle, d'une mmh. certaine manière, mmh. et pas jouer le rôle qu'on assignait à l'époque aux femmes, à savoir s'occuper de leur mari et de leurs enfants.
Car on
y viendra, elle avait des enfants.
Elle a eu deux fils dans l'entre-deux-guerres. On va y revenir. Je me tourne vers l'historien par rapport à ces propos de Jean-François Fournel. Effectivement, elle est de l'Ouest parisien, haute bourgeoisie, elle est assez chétive, et il y a un médecin de famille qui lui conseille de faire du sport. Or, si je ne dis pas de bêtises, Eric, c'est pas vraiment un sport le tennis dans la haute bourgeoisie, c'est une sorte de loisir distinctif. C'est un des seuls sports avant la Première Guerre mondiale que les femmes sont autorisées à pratiquer. Ça, c'est important parce que Simone arrive là un peu par hasard, en vérité, au tennis.
Tout à fait. Elle respecte tout à fait quand même les codes de sa famille. C'est une forme de respect de la conscience sociale, la conscience d'appartenir à une famille qui doit se montrer aussi. Elle est vouée à un mariage plus ou moins arrangé, tôt ou tard, dans la bourgeoisie.
Elle n'a que 17 ans quand elle se marie.
Elle n'a que 17 ans. Mmh. Et on parlait de ses enfants. Elle sera une très jeune mère. Très, mmh. très jeune mère. Très jeune pour l'époque. On oublie que les moyennes étaient quand même assez élevées pour l'âge des femmes au premier enfant. Et donc, elle a sûrement des rêves, parce qu'on n'en sait pas plus, elle ne sait pas raconter, mais elle a sûrement des rêves qui sont des rêves de voyage, c'est-à-dire des rêves qu'on n'a pas beaucoup dans la bourgeoisie parisienne, qu'on n'a pas beaucoup dans la bourgeoisie tout court. Hein, la fille est éduquée par sa mère, non pas simplement à la dentelle ou au tricot, mais tout de même à paraître. Et ensuite à élever des enfants, à les emmener au catéchisme, etc. etc. Et Simone Mathieu, dès son adolescence, on lui laisse l'occasion de faire du tennis parce qu'elle est chétive, comme vous le dites, et finalement elle va saisir l'occasion pour faire un parcours, pour voyager,
et oui.
Ce qui était donné à très peu de femmes que de voyager autant et grâce au tennis pour elle en tout cas.
Oui, parce qu'elle a fait beaucoup de compétitions internationales, donc elle a dû effectivement voyager. Donc revenons à ce statut de femme de Simone Mathieu dans les années à la fois d'avant-guerre et d'entre-deux-guerres. Elle a effectivement deux fils à très jeune âge. Elle parcourt le monde à nouveau, vous l'avez dit. Il faut quand même rappeler que dans ces périodes-là, les femmes socialement et politiquement sont entravées, même mineures. Elles n'ont pas le droit
elles
de
sont
vote.
Mineures, elles n'ont pas le droit de vote.
Jusqu'à la fin de leur vie, à l'époque.
Avant l'ordonnance de 1944, jusqu'à la fin de leur vie.
Et donc cette grande bourgeoise devient à travers son sport, une avant-garde en réalité.
Oui, tout à fait. Et elle est remarquée ainsi au Stade français, au Racing, comme une femme déjà à forte tête, comme une féministe avant l'heure. Elle veut se penser en femme, mais en femme libre. Et elle dit, bien qu'étant mineure, je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas non plus quelques libertés. La minorité civique ne m'oblige pas à être prisonnière de mon mari. Et je pense qu'elle s'est mariée aussi avec quelqu'un qui lui a laissé faire un peu ce qu'elle voulait.
Oui, le mari a aussi sans doute été assez conscient de ça et a ouvert la porte aussi à cette liberté.
Quand on en reparlera tout à l'heure pour la guerre, mais quand elle arrive à Londres, elle dit « Moi, je ne suis pas engagée, personnellement, puisque mes deux enfants ne sont pas avec moi, puisque normalement, pour rentrer dans la France libre, quand on était une femme, il fallait être célibataire ou mariée, mais sans enfants. » Et ses enfants étaient effectivement à Paris, son mari dans le Sud, elle a été capable de se séparer, ils ont été capables de se séparer pendant 4 ans et de reformer une famille. C'est quand même un caractère exceptionnel, très jeune.
Ce caractère fait aussi écho à son jeu. Jean-François, c'est un peu une cogneuse de fond de cour. Il paraît qu'elle rouspète beaucoup après les arbitres. Elle a une sorte de proto-McEnroe. Hein.
C'est une joueuse de fond de cour. Elle a un jeu très puissant, mais pas très aérien. Elle-même, physiquement, je pense que ça a joué beaucoup dans sa disparition du décorum du sport français. C'est un peu cruel de dire ça, mais ce n'est pas une... Quand on compare à Suzanne Lenglen, par exemple, ce n'est pas une jolie femme. C'est une femme qui est assez massive. Elle a un jeu assez massif. Elle est un peu lourde sur le court. Et donc, elle n'attire pas forcément le regard des élégants, des photographes, des gravures de mode. Mais c'est une merveilleuse joueuse. Il ne faut pas oublier qu'elle a quand même le deuxième palmarès du tennis français féminin. Derrière Suzanne Lenglen, très 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 loin. Elle a 13 titres de Grand Chelem, certes, deux
à Roland-Garros
en 38 et 39, mais elle est quand même titrée en double et en double mixte. À l'époque, ces disciplines étaient bien supérieures à ce qu'elles
sont aujourd'hui.
Aujourd'hui, puisque le tennis était aussi un sport un peu presque de salon aussi. Oui. Donc le double mixte, c'était quelque chose qui comptait beaucoup plus qu'aujourd'hui.
Jean-François, une première photo à décrire sous vos yeux. Que voit-on sur cette photo de la fin des années 30.
Alors, on est dans la fin des années 30, on voit une très jeune fille, un peu timide, un peu empruntée, qui a la main derrière le dos, et une femme magnifique, sublime, Suzanne Lenglen. On peut même comparer leurs deux jupes. L'une était quasiment la Coco Chanel du tennis. D'ailleurs, elle a une robe un peu plissée, un peu à la... On dirait un peu Coco Chanel,
oui,
elle a un turban, le collier de perles est pas loin. Mm-hmm. L'autre, elle a une espèce de cardigan un peu mal tricoté, un peu en laine épaisse. Elle semble intimidée, mais elle est à côté d'une monstre sacrée.
La divine.
De la divine.
Est-ce que c'est une des raisons potentielles, possibles de l'anonymat de Simone Mathieu, qu'elle ait grandi dans l'ombre de la divine? Est-ce que cette ombre-là de Lenglen a finalement abîmé son transfert dans la mémoire des Français?
C'est difficile à dire parce que à l'époque on parlait assez peu de ces femmes-là et finalement on parlait assez peu de la rubrique tennis de l'époque, même en dépit de la prééminence des mousquetaires, parce qu'on sort de l'époque mousquetaire, c'était pas une rubrique majeure dans l'auto-journal de l'époque,
dans la presse, c'était pas très reporté.
Il n'était pas très reporté, mais il est probable effectivement que Simone Mathieu ait vécu dans cette ombre-là. Le tennis français depuis 50 ans vit dans l'ombre de Yannick Noah. Eh bien, je pense que pendant 40 ans, le tennis français a vécu dans l'ombre des mousquetaires et de Suzanne Lenglen, et que l'ombre était difficile à supporter, certainement.
C'est assez amusant, Eric Allary, en regardant cette photo, c'est les tenues. Mmh. Hein, les tenues de ces deux joueuses, elles sont totalement inadaptées au tennis. C'est des robes plissées, on porte des collants, on est effectivement avec des cardigans en laine. Comment dire, on montre pas le corps, surtout. Bon. Ça raconte une histoire aussi de la femme dans les années 30, enfin, du regard de l'homme sur la femme dans les années 30.
Ouais, la femme dans les années 30, qu'elle soit la bourgeoisie ou du monde ouvrier doit rester sobre, doit rester avec une tenue tout à fait décente. D'ailleurs, c'est toujours d'actualité, vous remarquerez, la tenue décente. Mmh. Et en même temps, c'est vrai qu'on se demande comment elle pouvait réussir ses exploits.
Alors,
on pourra toujours nous dire qu'elle jouait moins vite. Mmh. Je trouve que déjà, c'est assez ségrégatif de dire qu'elle jouait moins vite.
Mais comment on comment on peut jouer vite avec des tenues pareilles?
Elle s'adaptait, elle sautait beaucoup plus peut-être que maintenant. Elles abattaient beaucoup plus de terrain qu'aujourd'hui. Elles montaient peut-être un peu moins au filet, à part l'Anglaine. Et voilà, donc c'est quand même c'est très méritoire. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, dans la presse, qui s'intéresse au tennis? La bourgeoisie, des grandes villes. Bon, le monde ouvrier s'intéressait surtout au Tour de France, au football, au rugby à 13. À l'époque, pas encore tout à fait au rugby à 15. Et voilà, donc le tennis, finalement, avait peu de place, rapportait peu. Il n'y avait pas comme aujourd'hui ce lien avec les sponsors. Je ne sais pas combien a gagné d'argent Simone Mathieu, mais ce serait sûrement assez ridicule.
Pas grand-chose.
Elle a pu gagner
sans doute
avec 13 grands chelems. Mmh,
pas grand-chose.
Elle est
mmh.
en 39, mmh. à la veille de devenir numéro 1 mondial, mmh. si elle passe 2 ou 3 tours de l'US Open.
Oui, et ça, on va y revenir, parce qu'elle va s'arrêter. Enfin, elle ne va pas à l'US Open, parce que la déclaration de guerre va faire basculer son destin. On va y revenir dans la seconde partie. J'ai une dernière question pour terminer cette première partie, Éric Alary. Donc, Simone Mathieu gagne Roland-Garros en simple, en 38 et en 39. Or, les trois finales précédentes, 35, 36, 37, elle perd contre la même personne qui s'appelle Hilde Sperling, qui est une joueuse du Troisième Reich, qui joue sous la croix gammée, qui est la joueuse nazie. Et je me suis dit, en travaillant ce dossier, que d'un point de vue symbolique, en réalité, Simone Mathieu affronte très tôt les nazis sur le terrain du tennis. Alors certes, c'est pousser le bouchon un peu loin, mais je me suis quand même dit que, du point de vue de Simone Mathieu, le sport était déjà une prémisse de l'affrontement des fascismes contre les démocraties. Elle sait ce que c'est, elle, de perdre contre une nazie sur un terrain tennis à Roland-Garros. C'est une expérience qu'elle a vécue.
Oui, elle symbolise, on va peut-être un peu loin disant ça, mais elle symbolise la démocratie qui se bat contre un régime totalitaire. Ce que l'on sait, c'est que elle rentre dans la résistance à Londres. Elle menace d'ailleurs De Gaulle d'aller vers les Anglais si on ne veut pas d'elle, par patriotisme.
Oui.
On n'est pas résistant parce qu'on est sportif.
Non.
On est résistant par patriotisme, par idéologie. Et elle appartient à cette catégorie-là. Et dans les familles de la bourgeoisie, le patriotisme était très fort. Et n'oublions pas que la plupart de ses pères avaient vécu la Grande Guerre. Hein, les pères de filles comme Simone Mathieu. Je ne sais pas ce qu'a fait le père de Simone Mathieu.
Son père était banquier d'affaires
était
à
banquier
Paris.
D'affaires.
Et Monsieur Gaston
bon,
Passemard, il me semble que dans le mémoire de maîtrise qui existe à l'université française, un seul mémoire de maîtrise signé par Séverine Georges, je la cite, c'est important, je crois qu'elle dit que son père a participé à la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que la guerre rentre très tôt dans la vie de Simone Mathieu. Petite fille, elle est née en 1908, c'est-à-dire qu'elle a 10 ans, en 18,
voilà,
donc elle sait ce que c'est que la guerre.
Elle est aussi témoin de la guerre. Et donc dans l'entre-deux-guerres, évidemment, le patriotisme est très très fort, qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite. Que fait l'école républicaine, si ce n'est vanter les mérites de l'Empire colonial et vanter la victoire française, la fameuse victoire avec un grand V, celle qui est conduite par le patriotisme. Donc elle est naturellement patriote.
Allez, on va faire une pause musicale avec un titre rap de cette rentrée sur Inter. Voici le comeback de Gaël Faye. Le titre joué, Respire.
Encore l'insomnie, sonnerie du matin. Le corps engourdi, toujours endormi, miroir, salle de bain. Triste face à face, angoisse du réveil. Reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil.
Ok.
Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines, courir après l'heure, les rames bondées, les passes ton regard, la vie c'est l'usine, hamster dans sa roue. Petit chef grand bourreau. Faire la queue partout, font la gueule partout, la vie c'est robot.
T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère.
Encore fatigué, la cloche du midi. Le corps assommé, toujours épuisé, les masques sont mis. Triste face à face. Poursuite du bonheur. Reflet dans la glace, les années qui passent flétrissent les fleurs.
Ok.
Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassines, les cons, les cancers. Le temps qui s'écoule, le vide qui se fait, le silence épais. La vie c'est la guerre tournée dans le tambour. Amour placebo.
faire semblant pour tout, c'est violent partout, la vie c'est Rambo.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout en pire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout en pire, espère. Les yeux ouverts ne trouvent pas le sommeil, dans le lit tourne tout le temps. Les phares des voitures balayent le plafond de leurs ombres dansantes. La nuit étouffe, la chaleur est lourde, l'orage est en suspens. Où sont les rêves, où sont nos rêves d'enfants? S'échapper, déserter les rangs, s'évader des tapis roulants, chercher le silence et l'errance, raccrocher, trouver sa cadence, se foutre des codes, des routines étroites, quitter son rôle, les cases et les boîtes, ne pas craquer, claquer, cramer, desserre ton col pour respirer. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout en pire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout en pire, espère.
Souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
L'œil du tigre.
Simone Mathieu. Elle fut 5 fois finaliste, 2 fois gagnante du simple dame à Roland-Garros en 1938 et 1939, avant de se couvrir de gloire pendant la guerre, qu'elle termina avec le grade de capitaine dans les forces françaises libres.
Philippe Collin, sur France Inter.
En septembre 1939, après ses 2 victoires consécutives à Roland-Garros, la championne française Simone Mathieu est à New York pour participer à plusieurs tournois, dont l'US Open. Mais la déclaration de guerre de la France à l'Allemagne nazie fait basculer son destin. Aussitôt, Simone Mathieu déclare forfait pour les prochaines compétitions, puis se dégote une cabine sur un transatlantique, direction l'Angleterre, où elle débarque à Southampton quelques semaines plus tard et devient donc l'une des toutes premières femmes françaises à entrer en guerre contre le Troisième Reich.
Ce n'est pas un petit oiseau dans sa cage que vous voyez là, c'est un petit enfant français né en Angleterre. Sa maman, comme toutes les femmes françaises, aide ici à l'effort de guerre. Elle travaille toute la journée comme un ouvrier dans cette usine d'armement. D'autres jeunes femmes se sont engagées, elles, chez les volontaires françaises. Elles portent l'uniforme kaki des soldats avec l'écusson bleu et la croix de Lorraine.
Archives de 1941. Éric Alary, je rappelle que vous êtes historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. On va revenir sur ces volontaires françaises dont on vient d'entendre parler dans ce son. Il faut préciser les choses pour commencer. Simone Mathieu arrive à Londres, j'ai envie de dire quasiment avant De Gaulle, puisqu'en 39 et en l'hiver 40, la guerre a lieu, et donc la drôle de guerre, puis évidemment l'invasion allemande. Donc De Gaulle n'est pas à Londres. Donc elle arrive avant De Gaulle à Londres. Qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'elle ne peut pas rentrer dans l'armée française. Donc qu'est-ce qu'elle fait à Londres dans les premiers mois, Simone Mathieu?
Eh bien, elle veut faire quelque chose. Ce qui est souvent d'ailleurs la remarque que font les premiers résistants, les résistants de la première heure. Elle veut faire quelque chose. Elle apprend que dans l'armée anglaise, les femmes peuvent faire un service militaire. Alors, dans un service qu'on appelle ATS, qui est la branche féminine non combattante, précisons, de l'armée anglaise, mais les femmes anglaises peuvent être engagées dans l'armée. Ce qui n'est pas le cas pour la France, puisque l'armée n'utilise les femmes que dans des situations civiles, par exemple, les sections sanitaires automobiles, pour être infirmière, mais jamais véritablement avec l'uniforme. Et donc elle cherche à s'engager. Quand la guerre commence, se met en place comme à Paris et dans les villes de France les mesures de défense passive. Et elle, Simone Mathieu, va plusieurs soirs faire des veilles sur les toits londoniens pour voir si l'aviation allemande, la Luftwaffe, ne va pas attaquer. Et donc elle fait partie, avec les Anglais, des acteurs, actrices donc de la défense passive. Bon. Le désastre arrive, mai, juin 40, l'exode, etc. Évidemment, elle est fortement éprouvée. Elle n'a pas revu sa famille. Elle a laissé sa carrière.
On rappelle qu'elle a deux fils en France et son mari.
Et son mari. Elle laisse derrière elle sa carrière. Elle est quand même en passe d'être numéro un mondial, comme nous disions tout à l'heure. Et il n'y a qu'une chose qui vaille pour elle, c'est rejoindre la France, mais une France qui pourrait être libérée le plus vite possible par les Allemands.
Par les Anglais,
pardon.
Libérée par les Anglais.
Merci, Philippe.
Je vous en prie.
Et donc, elle apprend que De Gaulle est à Londres. Elle apprend qu'il y a eu un appel à la résistance. Et donc, elle se rend immédiatement vers De Gaulle ou ceux qui l'entourent, dont les premiers, dont l'amiral Muselier, par exemple.
Elle est donc dans les toutes premières à rejoindre. Elle est sur place, elle est à Londres. Donc, je crois qu'elle le rejoint le 20 juin, j'ai cru lire ça. Donc, en fait, très très vite, elle est dans l'entourage du général
De Gaulle. Deux ou trois jours après l'appel, le célèbre appel. Et à ma connaissance, je ne connais pas d'autres femmes, d'autres noms de femmes qui sont là, à côté de De Gaulle, et qui viennent là se présenter et se mettre au service du général De Gaulle, qui est très surpris. Qui est très très surpris.
De voir cette femme là débarquer.
De voir cette femme débarquer, une femme, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions d'une femme? Et pourtant, en France, il y avait eu des évolutions. Le 11 juillet 1938, une loi, la loi Paul Boncour, avait prévu d'intégrer les femmes à la défense du pays, au service de la nation en guerre. Et je ne sais pas si elle connaissait cette loi, mais elle pensait, elle, tout à fait légitime, le devoir des femmes de combattre dans une armée, puisqu'elle apprend qu'une armée possiblement peut être créée à Londres, que l'amiral Muselier est en train de mettre au point une armée. Et elle dit vraisemblablement à De Gaulle et à son entourage que si elle ne peut pas intégrer les forces françaises libres qui sont en train d'être construites, elle va rejoindre le corps des militaires anglaises.
Et là, que se passe-t-il, Eric? Effectivement, De Gaulle cherche à réunir les synergies autour de lui. L'armée française est en débâcle. Il cherche à réunir une armée autour de sa personne. Et il va donc lui confier une mission à Simone Mathieu.
Alors, De Gaulle, d'abord, au départ, était très réticent. Il en parle à Churchill. Churchill est réticent. Il craignait fortement d'avoir deux armées féminines sur le sol britannique, il faut le dire.
Oui, oui.
Et puis, finalement, l'amiral Muselier a certainement convaincu, très certainement convaincu De Gaulle, d'intégrer les femmes, même si elles sont 10, 15, 20, puisqu'il dit en gros à De Gaulle, vous ne pouvez pas vous permettre de repousser toutes les bonnes volontés, puisque nous sommes très très peu.
Oui.
Très très peu.
Oui, une poignée.
Et donc, il va charger, à partir du mois de novembre 1940, Simone Mathieu de créer un corps féminin de la France libre, un corps des volontaires féminins de la France libre, il va changer plusieurs fois de nom, et charger d'un certain nombre de missions qui peuvent être l'espionnage, le secrétariat, pas le combat à main armée, ça surtout pas. Et un certain nombre de femmes vont rejoindre Simone Mathieu. Alors, elle ne fait pas d'appel à la radio, même si elle va parler deux fois à la BBC. J'ai retrouvé deux émissions où elle parle. Elle parle pour la jeunesse, mais pas en tant que sportive. Le sportif n'est pas vu comme modèle pour la France libre. Quand on parle aux jeunes, on parle de Jacques Cartier, de Surcouf, mais pas des tenniswoman. Donc, elle va obtenir surtout que les femmes puissent signer un engagement le temps de la guerre, comme les hommes qui entrent dans la France libre, plus 3 mois. Ça, c'était les contrats de l'époque, etc. Elles doivent être célibataires, elles doivent être âgées entre 18 et 45 ans, et ne pas avoir d'enfants. Alors Simone, voilà, elle avait des enfants, sauf qu'ils sont en France, et elle a dit, moi je ne suis pas engagée, puisque je ne suis pas rattachée sentimentalement à des enfants, je peux donc faire mon travail comme je le veux. Et elle va être chargée de l'entraînement d'une cinquantaine de jeunes femmes.
Ce qui n'est pas rien, Eric. C'est une héroïne de la France libre, quand même.
C'est une ultra-héroïne de la France libre. Dans l'immense histoire de la France libre de Jean-Louis Crémieux-Briac, très grand historien, grand résistant, il y a 3 lignes sur Simone Mathieu. Et encore, on parle surtout de son exclusion à partir de 1941 du système d'entraînement. Et les femmes qui rejoignent Simone Mathieu sont quand même des femmes qui sont parfois éminentes. Il y a des chimistes, il y aura une aviatrice, Maryse Bastier, il y aura des ingénieurs, des médecins, etc., etc. Et elle arrive à se faire entendre. Elle arrive à se faire respecter avec des méthodes sûrement assez rudes, mais elle était payée pour ça, si je puis dire.
Alors Jean-François Fournel, je me retourne vers vous. Je rappelle que vous êtes journaliste au journal La Croix, que vous avez écrit un très bon portrait de Simone Mathieu. On fait écho au caractère là, de Simone. On parle de De Gaulle, de la France libre, du corps féminin des Françaises libres. En fait, ça va se passer assez mal, cette histoire, parce que pour deux raisons, l'entourage du général De Gaulle notamment les généraux d'état-major, ont quand même du mal à voir arriver cette femme, parce qu'elle est femme déjà. Et par ailleurs, Simone a un caractère bien trempé qui effectivement va s'affronter à cet état-major très conservateur. Donc ça va assez mal se passer, elle va se faire débarquer assez vite de cette mission-là d'ailleurs.
Oui, alors je ne vais pas interférer sur le terrain de notre historien, mais il faut se dire quand même que les gaullistes n'aimaient pas le sport. Mmh. En gros, il faut quand même comprendre que le sport, c'est l'affaire, à cette époque-là, du Front populaire et du régime de Vichy, qui sont deux corps constitués historiques qui aimaient le sport. Le Front populaire, avec Léo Lagrange, s'est beaucoup intéressé au sport. Et le régime de Vichy a constitué tout ce qui fait notre organisation aujourd'hui du sport contemporain en France, est en grande partie lié au régime de Vichy. Les gaullistes, pour eux, le sport, c'est de la gymnastique. Ça ne les intéresse pas. Ce sont des intellectuels, des artistes. Jean Moulin en est un exemple. Ce sont des poètes, ce sont des écrivains.
René Cassin.
De Gaulle découvre le sport avec la déculottée de l'équipe de France aux Jeux Olympiques de 1960.
Oui.
Il découvre à ce moment-là, grâce aux héros du sport mondial de l'époque, qui était Maurice Herzog, qui n'était pas vraiment un sportif,
mais un alpiniste.
Enfin, on peut disserter des heures. Mais enfin, De Gaulle découvre le sport en 1960. Avant, il y a même pas de ministre des sports à ce moment-là. Donc déjà, une femme, mauvais caractère, qui s'oppose éventuellement à certaines décisions militaires et en plus sportives,
tenniswoman,
de salon, un sport de salon, un sport où on sert le thé, ça ne l'intéressait pas beaucoup. Tout ça fait que le jour où, dans un contexte que je vous laisserai raconter, parce que je ne suis pas sûr moi-même des sources, je crois qu'elle s'est opposée à De Gaulle, elle s'est opposée à un général qui travaillait avec De Gaulle, qui s'est arrangé pour la saquer, quoi.
Le général Petit, je crois, non, c'est lui,
oui,
ou pas
c'est
du tout,
général Petit.
Le général Petit, elle s'est affrontée au général
qui
Petit.
Qui est chef d'état-major du général De Gaulle. Et le général Petit est celui qui va fonder en URSS un peu plus tard la fameuse escadrille Normandie-Niémen. Donc c'est quelqu'un que De Gaulle a en haute estime. Mais, et là, on ne peut pas vérifier malheureusement, l'une des versions de l'éviction de Simone Mathieu, c'est qu'elle se serait opposée vertement au général Petit qui va lui faire payer très très cher. À quoi elle s'oppose-t-elle? Elle s'oppose au manque de sérieux de l'une des filles qui fricotait, avant que ce soit l'inverse, avec le général Petit. Et le général Petit, pour se venger de Simone Mathieu, va dire au général de Gaulle que dès le lendemain, Simone Mathieu l'attend dans une caserne anglaise où elle s'entraîne avec les filles, et donc et qu'il y aura une revue,
passer en revue les troupes françaises,
etc. Général Petit sait très bien que les jeunes femmes ne sont pas là le lendemain. Il n'y a que Simone Mathieu qui donc doit affronter le grand général de Gaulle
seul,
de toute sa
face à face,
seul, et ça, il ne lui aurait pas pardonné. C'est une des versions. Peut-être est-ce une goutte qui a fait déborder le vase. En tout cas, général Petit avait réussi sa vengeance si tel était son objectif.
Alors, elle va être transférée, je crois, au BCRA, si je dis pas bêtise, qui est donc le Bureau Central de Résistance et d'Action.
De Renseignement et d'Action.
De Renseignement et d'Action, pardon, qu'elle devient espionne, en réalité. Elle s'occupe du chiffre, voilà. Elle sera à Alger en 1943 avec le général de Gaulle. On raconte, on n'a pas la preuve, c'est toujours pareil, qu'elle aurait descendu les Champs-Élysées derrière le général dans cette grande marche de la libération. Et elle se retrouve quand même dans une seconde photo qu'on va décrire ce soir, Jean-François Fournel. Quelle est cette seconde photo qu'on aperçoit de Simone Mathieu à l'été 1944?
Alors, elle est en uniforme sur le cours de Roland-Garros. Il semblerait qu'on lui ait confié le rôle de juge-arbitre.
Oui.
Elle aurait, ça fait partie de la légende, plaisanté sur le fait qu'elle ne connaissait plus les règles, ce qui paraît totalement, c'est une provocation.
C'est un pied de nez. Oui,
c'est
un pied.
Elle arbitre la finale homme, je crois.
Qui est le match de la libération, on va dire. Il y a Cochet contre Petra, l'ancienne garde, nouvelle garde,
absolument.
Donc deux hommes qui vont jouer au tennis face à face à Roland-Garros. Donc
sachant
le match
que l'un avait eu comme beaucoup de sportifs à l'époque, avait lui épousé, était monté sur le cours, rentré sur le cours de Vichy, visiblement.
Absolument.
C'est le cas aussi de Jean Borotra d'ailleurs. Mm-hmm. Enfin bon, l'histoire, on va pas. Mais cette photo, c'est une femme en uniforme. Alors là, c'est
le capitaine. Elle est capitaine de l'armée française.
Un maximum pour une femme d'ailleurs,
d'accord.
Un capitaine.
Oui.
Dans l'échelonnage de la France libre des grades, oui.
Oui. Ah, d'accord. Donc une femme colonel, c'est impossible.
Ne pouvait pas, comme elle n'avait pas forcément la même solde. Même si elle s'est battue pour que les femmes de la France libre aient les mêmes soldes.
Oui.
Que
Simone Mathieu s'est battue pour les soldes, pour qu'il y ait une égalité des salaires déjà dans la France libre. D'accord. Et alors cette photo, elle est vraiment intéressante parce que on a une femme qui est en uniforme face à deux hommes, et c'est toute une France compliquée sur cette photo parce que il y a à la fois un bout de la France de Vichy qui est là, à travers un des mousquetaires. Il y a une femme qui appartient à la France libre, et puis il y a une France de demain aussi. Il y a une
relève, il y a une jeune garde qui est là. Cette photo, elle est intéressante.
Petra n'a pas encore gagné Wimbledon. Je crois savoir que c'est le dernier
Français
joueur de tennis qui a gagné Wimbledon en 1946. Alors là, c'est juste avant, c'est quelques temps avant.
C'est et le alors, 17 septembre 44.
On voit qu'elle a pris un petit peu d'embonpoint, si vous me permettez cette remarque. C'est une héroïne aux yeux des Français qui le savent, mais pas plus que cela. Et bon, on voit Cochet qui a été attaché à la propagande pour le tennis, je crois, pendant la guerre. Donc il était très lié évidemment à Borotra, qui a été le premier, entre guillemets, ministre sous Vichy des sports, enfin secrétaire général, commissaire au sport, etc., avant Jeb Pasco. Et à ce moment-là, elle va être décorée, c'est quand même quelqu'un qui connaît la gloire. Et ensuite, il n'y a plus rien. Alors, peut-être ça nous permet d'évoquer la mémoire.
Allons-y.
La mémoire, elle reste quand même assez masculine, quoi que l'on dise, surtout dans le domaine militaire.
Et sportif.
Il y a une distorsion entre l'histoire de cette femme et sa mémoire. Et ça me rappelle aussi certains individus. Par exemple, Pierre Brossolette, qui est quand même un immense résistant, qui donc va se jeter apparemment des fenêtres de la Gestapo pour ne pas parler. Qui en parle après la guerre? On parle de Jean Moulin. Les gaullistes vont instrumentaliser le parcours de Jean Moulin, les communistes vont instrumentaliser d'autres parcours, Gabriel Péri et d'autres par exemple. Et je pense souvent à Simone Mathieu en ces termes-là, je me dis quelque part, quelqu'un qui a résisté au général de Gaulle, quelqu'un qui a une forte tête, qui en plus est une femme, finalement elle n'a peut-être pas sa place au début dans la galerie des héros. C'est dur de dire cela, c'est pas de l'antigaullisme que de dire cela, mais quelque part c'est dans les codes de l'époque. Cette femme a peut-être, à un moment, s'est trop opposée au général de Gaulle, à l'amiral Muselier, et peut-être parlait-elle trop, vraisemblablement. Donc, effectivement, elle n'a pas cherché non plus elle-même, apparemment, à exister plus que cela, même si elle est rentrée dans les instances du tennis. Donc oui, on l'a pas totalement oublié, je crois.
Non, parce qu'on pourrait l'attendre, effectivement, dans une forme de restauration du pouvoir républicain à la libération, près de Gaulle. Après tout, tout son parcours tendrait à justifier ça. Pas du tout. Jean-François Fournel, elle va rejoindre le tennis. Qu'est-ce qu'elle devient, Simone Mathieu?
Elle devient, on dirait aujourd'hui, capitaine de la Fed Cup, c'est-à-dire qu'elle devient chef de l'équipe de France, patronne de l'équipe de France
de tennis,
qui à l'époque a une immense championne qui s'appelle Françoise Dur, qui va
gagner Roland-Garros.
En 67. Oui. Et d'ailleurs, Françoise Dur aura des propos très durs à l'égard de
Simone Mathieu.
Ouais. Et quand elle est morte en
1980, elle avait 72 ans.
Je me souviens pas d'immenses hommages.
Non, c'est une disparition dans l'anonymat.
Je crois que pour le 50e anniversaire du stade de Roland-Garros, on doit être
en 78.
Oui, puisque le stade date de 28. Voilà. Elle est vaguement là comme une personne.
Une des gagnantes françaises.
Mais
la dernière fois qu'elle apparaît publiquement, d'ailleurs.
Oui,
Simone Mathieu.
C'est ça. Moi, ça m'a fait penser quand pour l'inauguration
du cours Simone Mathieu
à Roland-Garros, il y avait Marie Pierce. Marie Pierce. Aujourd'hui, il faut vraiment connaître le tennis. Vous demandez au Français moyen, celui qui regarde le tennis un petit peu de temps en temps, etc., quelle est la dernière gagnante française de Roland-Garros, il va vous dire, je suis pas sûr que le nom, il va vous dire Mauresmo peut-être. Non, Mauresmo n'a pas gagné Roland-Garros,
non,
jamais.
Non. C'est Marie Pierce. C'est en Marie 2000, Pierce. Il y a 20 ans.
Mais elle aussi, Marie Pierce, c'est comme Simone Mathieu. C'est pas un personnage facile à
cerner. Mais de toute façon, vous le disiez pendant le disque, Jean-François Fournel, c'est que avec les sportifs françaises de très haut niveau, il y a toujours un problème. Hein. Ouais. Marie-Josée Perret qui était folle, Mauresmo était homosexuel, Simone Mathieu est caractérielle. Dès qu'il y a des grandes championnes françaises, il y a toujours un petit problème qui traîne.
Jenny Longo.
Ouais, Longo, je pense à elle aussi.
Voilà. Il y a toujours un souci. C'est assez étrange quand même.
Simone Mathieu n'entrait pas dans plein de galeries de portraits d'une époque et de plusieurs époques. Pourquoi Lucie Aubrac est-elle autant héroïsée?
Oui, alors qu'on vient de dresser un portrait ce soir d'une grande héroïne résistante, Simone Mathieu.
Le parcours vaut largement.
Bien sûr, c'est l'idée de Lucie Aubrac.
Lucie Aubrac libère son mari en pleine rue, spectaculaire.
C'est romanesque.
Donc aussi, on avait besoin de raconter des histoires après la guerre. Peut-être que Simone Mathieu n'a pas su, entre guillemets, j'aime pas beaucoup cette expression, se vendre aussi à un moment. Et puis, c'est une femme, c'est beaucoup plus compliqué.
Le titre du mémoire de maîtrise, c'est La gloire fuyante.
Oui.
La gloire fuyante, ça lui va assez bien, je trouve.
Pour réussir à l'époque, quand on était une femme dans le sport, et dans beaucoup d'autres domaines aujourd'hui, il fallait aussi répondre à un certain code esthétique et de comportement.
Imposé par les mecs,
Évidemment, imposé par les mecs.
Évidemment,
imposé par les mecs, et elle rentrait pas dans ces codes-là.
En tout cas, dans les jours qui viennent, vous entendrez souvent parler de Simone Mathieu, puisque Roland Garros commence cette semaine, et ben vous saurez qui est maintenant Simone Mathieu, cette immense joueuse de tennis et par ailleurs héroïne de la France libre. Merci à vous deux d'être venus ce soir. Je rappelle que vous pouvez retrouver la plume de Jean-François Fournel dans le journal La Croix et que vous pouvez lire la nouvelle histoire de l'occupation aux éditions Perrin, un ouvrage passionnant signé Éric Allary. Éric Allary qui administre désormais les rendez-vous de l'histoire à Blois, devenu incontournable ces rendez-vous de l'histoire, et qui auront lieu cette année du 7 au 11 octobre avec un thème d'actualité, gouverner. Merci beaucoup à vous deux,
merci.
À très bientôt,
merci.
Bonne soirée, au revoir.
L'œil du tigre, Philippe Collin, sur France Inter.
Hello, Mr. Holland. And Rosie may come out and play, she's a good girl now. Won't be no trouble, no how. By the way, Mr. Holland, I like the way you made no trouble of my skin. It's not a problem, nor has it ever been. You invited me into your home, treated me like I was grown. I was only 18, and Rosie was a beauty queen. Hello, Mr. Holland, and Rosie may come out and play. I'm a good boy now, won't be no trouble, no how. By the way, Mr. Holland, I like the way you treat me like a regular Joe. I wanted a soda, and you said Rosie could go. Anyway, I like your style, seem like I'll be around for a while. We can talk about a country mile and listen to a blues record, check it out, oh! Hello, Mr. Holland, and Rosie may come out and play. It's a good world now, won't be no trouble, no how. And by the way, Mr. Holland, I like the way you treat me like a regular bill. My name is not a problem, and oh, it never will. Anyway, I like your way, people ought to be able to play. And keep your soul as black as the night when you're walking straight into the light. Oh, now.
Mr. Holland, chanson signée Gregory Porter. On continue en musique avec la victoire en chantant le rendez-vous de Pierre-Étienne Minonzio, plume de l'équipe, notre partenaire cette année, ce soir en cause cricket et Divine Comédie. Pierre-Étienne, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors, ce soir, on cause d'un artiste interrien.
Oui, complètement. Je vais vous parler de Ney Annan, le leader du groupe The Divine Comedy. Alors, comme on est sur Inter, je ne m'étends pas. Je vais juste rappeler que c'est un chanteur nord-irlandais spécialisé dans la pop élégante qui fête cette année ses 20 ans de carrière. Alors, pour l'occasion, il devait donner une série de concerts à la Philharmonie de Paris, qui devait être entre vendredi dernier et mardi prochain. Bon, tout a été annulé à cause du Covid. C'est bien triste, car on aurait pu y entendre des morceaux splendides, comme celui-ci.
Take the National Express, when your life's in a mess, it'll make you smile. All human life is here, from the feeble old deer, to the screaming child.
Ou encore celui-là.
No matter how I try, I just can't get her out of my mind. And when I sleep.
Alors venons-en au sport, Pierre-Étienne. Que vient faire Neil Annan dans cette chronique?
Alors on y arrive. Neil Annan mérite sa place ici car en 2009 et en 2012, avec l'Irlandais Thomas Walsh, il a publié deux albums entièrement dédiés au cricket.
Au cricket.
Ouais, vous savez, cette discipline étrange, qui ressemble au baseball, mais en plus stratégique, qui a connu son essor au XVIIIe siècle et qui reste très populaire aujourd'hui dans les nations de l'ex-empire britannique. C'est d'ailleurs le sport british par excellence, avec ses traditions immuables et ses règles incompréhensibles pour les non-initiés.
Bien, mais alors on a du mal à voir ce qu'il y a de musical dans tout ça.
Mais c'est justement ce côté ésotérique qui a inspiré Annan et Walsh. Ce sont deux amoureux fous du cricket qui souhaitaient faire mieux connaître les spécificités de ce sport. Ainsi, le groupe qu'ils avaient créé pour l'occasion s'appelait The Duckworth Lewis Method. Mm-hmm. Il s'agit d'une référence à une méthode de calcul mathématique destinée à déterminer le score à atteindre par une équipe lorsqu'une partie a été interrompue.
Eh ben, my gosh.
Voilà. Dans le même esprit, l'extrait du morceau qui va suivre, qui s'appelle Jiggery Pokery, raconte comment, lors d'un match entre l'Angleterre et l'Australie en 1993, un batteur anglais avait été éliminé en raison d'un improbable faux rebond.
He loosened up his shoulders and with no run-up at all, he rolled his right arm over and he let go of the ball. It was jiggery pokery, trickery jokery, how did he open me up? Robbery, muggery, Aussie skullduggery, out for a buggering duck.
Alors, il ne faudrait pas croire que The Duckworth Lewis Method se contente de décrire en musique les plus grands matchs de l'histoire du cricket. Il y a aussi beaucoup d'humour dans les deux disques du groupe.
Quel genre d'humour ?
Bon, un exemple. Ah. La pochette du second album rend hommage à Michael Angelo, un Anglais qui, en 1975, en plein milieu d'une rencontre internationale de cricket, avait couru nu à travers le terrain, simplement parce qu'il avait chaud et parce qu'il s'ennuyait. Annan et Walsh ont également composé des chansons sur la manière dont la pluie perturbe les matchs, sur les arbitres de cricket ou encore sur les grands champions de ce sport, tels le batteur pakistanais Saïd Afridi, dit « Boom Boom ».
Mais alors, est-ce qu'on peut apprécier les morceaux de ce groupe sans rien connaître, comme moi, au cricket ?
Eh bien, figurez-vous que j'avais posé cette question à Neil Annan en 2009 et il m'avait répondu, je cite, « Oui, parce qu'on peut aimer la musique des Libertines sans consommer de la drogue dure. »
Excellente réponse.
Voilà, c'est une référence évidemment au fait que le groupe de rock les Libertines, à l'époque, évoquait son penchant pour les stupéfiants dans ses textes. Bref, je vous confirme que, même si comme moi, vous ne comprenez strictement rien au cricket...
Donc on est deux.
Exactement. Vous pourrez être sensible aux chansons charmantes de The Duckworth Lewis Method. Je conseille d'ailleurs leur écoute à tous ceux qui avaient pris des billets pour voir Neil Annan cette semaine. Ça les aidera à patienter jusqu'en septembre 2021, date à laquelle ses concerts à la Philharmonie seront reprogrammés.
Neil Annan et sa passion du cricket, deux albums à découvrir. Merci beaucoup Pierre-Etienne et à la semaine prochaine.
Salut, à dimanche prochain.
Et voilà, cette cinquième émission de notre saison 6 a été mise en onde ce soir par H2M, Henri, Marc Mutel. Merci beaucoup Marco. Assisté ce soir à la technique de Tiffany Battistel. Merci à toute l'équipe de l'Œil du Tigre, Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi, Thierry Dupin pour les Scuds et Loïc Sony pour les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter avec le compte L'Œil du Tigre et sur franceinter.fr bien sûr pour catcher le podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec un voyage au pays des archives de la BNF, la Bibliothèque Nationale de France qui conserve aussi les archives du sport depuis plus d'un siècle. On y trouve des trésors du XXe siècle. Vous verrez, c'est une exploration surprenante. Rendez-vous dimanche à 18h10. D'ici là, passez une excellente semaine sur Inter. Salut et fraternité.